Bonjour Louis Mercadier.
Oui, bonjour, bonjour CFM. Comment allez-vous par là-bas?
Eh ben, bon, très bien, on n'est pas très loin. Louis Mercadier, vous êtes historien, membre de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, auteur aussi de nombreux ouvrages, on en parlera peut-être, et puis conférencier. Et conférencier, c'est justement votre actualité, puisqu'il y a deux conférences que vous proposez cette semaine dans deux lieux de l'Aveyron. Deux conférences, mais une même thématique.
Oui, c'est deux conférences, effectivement, mais à deux thèmes différents. C'est-à-dire que la première aura lieu le mardi 23 novembre, donc, à Aguesac. C'est un petit village pas loin de Millau. Et elle aura lieu à 20h30. Et le thème, évidemment, la naissance du féminisme au travers de la vie de Marie Talabo, une Aveyronaise qui a eu un parcours vraiment exceptionnel.
Une Aveyronaise à qui vous avez consacré un ouvrage, hein, déjà.
Oui, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Marie Talabo, une Aveyronaise dans le tourbillon du 19e siècle. Et c'est vrai que c'est au travers de la vie de cette femme que je puis expliquer, si vous voulez, la naissance du féminisme dans un siècle donc très phallocrate et antiféministe au possible, qui est le 19e siècle.
L'autre conférence, c'est vendredi?
Alors l'autre conférence est vendredi prochain, ce sera le vendredi 26 novembre, mais là ce sera à Nus-Valadie. Nus-Valadie, c'est après Rodez, n'est-ce pas? Ce sera le vendredi à la médiathèque à 20h15. Et le thème là envisagé, ce sera la place de la femme durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire durant les 4 ans de guerre. C'est-à-dire que il s'agira des premières infirmières, vous savez, ces femmes qu'on appelait les anges blancs, c'était les poilus dans la noirceur de la guerre, qui appelaient ces femmes-là les anges blancs, parce qu'ils voyaient un être pur et divin derrière leur blouse blanche. Et donc, le thème de cette conférence va concerner ces femmes-là.
Alors, oui, deux conférences, deux lieux, mais quand même, le lien entre les deux conférences, c'est le féminisme. Alors, pas dans le même siècle?
Absolument, c'est pas le même siècle, bien sûr, parce que Marie Talabo, c'est le 19e, mais vous savez, à partir de la Première Guerre mondiale, eh bien, vous savez, ça n'avait pas encore tellement changé. Et c'est vrai que la femme a été reconnue comme une femme exceptionnelle pendant la guerre. C'est vrai qu'elle s'est défoncée, on va dire, véritablement, pour aider autour d'elle. D'ailleurs, Joffre aurait dit, si les femmes ne s'étaient arrêtées que 20 minutes durant cette guerre, eh bien, on perdait la guerre. C'est incroyable le boulot qu'elles ont fait. Je puis vous dire qu'on peut leur lever le chapeau.
Et alors, Marie Talabo, qui sera la matière de la première conférence ce mardi à Aguesac, oui, c'est une Aveyronaise, hein, partie de rien et arrivée à presque tout.
Alors effectivement, Marie Talabo est une fille qui est partie de rien, d'ailleurs d'une famille très très pauvre, et elle a eu le malheur d'ailleurs de perdre sa maman à l'âge de 5 ans, elle s'est retrouvée à l'orphelinat, dès 8 ans elle travaillait à l'usine, et à 15 ans elle est partie en sabot à Marseille, ne parlant guère que patois, faire la bonne à tout faire dans la famille Freycinet, une grande famille d'armateurs marseillais. Et c'est là qu'elle a rencontré Paulin Talabo, ingénieur polytechnicien, qui mettait en route les premiers chemins de fer en France. À partir de là, elle a su écouter autour d'elle, elle a appris naturellement, sur le tas, comme ça, mais elle a appris beaucoup, notamment à parler, elle qui ne parlait guère que patois, a appris à parler convenablement le français, mais également couramment l'anglais, l'italien et même quelques mots de russe.
Et elle s'est fait distinguer, notamment à Paris.
Et oui, c'est-à-dire, c'est évidemment grâce à Paulin qui était son amant, elle était sa jeune maîtresse, mais c'était un couple qui s'aimait beaucoup, parce que par la suite, ils se sont quand même mariés, bien très tard d'ailleurs. Et à Paris, effectivement, elle est rentrée dans la plus haute sphère parisienne, tout simplement par son intelligence. Elle sait vraiment, et sa compétence, sa connaissance aussi. Et elle s'est impliquée dans les salons littéraires, où là, elle va recevoir des gens comme Gambetta, Haussmann, le comte de Lille, Savonien de Brazac, Georges Sand aussi, avec laquelle elle va avoir des liens intéressants.
Alors Marie Talabo, pas oublié hein, par vous, puisque vous lui avez consacré un ouvrage, mais Marie Talabo qui est aussi son mausolée au-dessus du village quasiment qu'il a vu naître.
Absolument. Absolument, c'est ta Sainte-Geniès d'Olt, parce que un jour elle avait été, comment dirais-je, elle avait été insultée, on l'avait traitée de tout, et elle aurait, je le dis au conditionnel, parce que c'est la petite histoire, hein, elle aurait répondu, vous ne voulez pas me voir vivante, eh bien je vous dominerai après ma mort. Ce mausolée, effectivement, domine la ville de Saint-Geniès. C'est un mausolée qui fait quand même 13 mètres de haut. Et elle est dessous, elle est dans un triple cercueil embaumé. C'est une belle œuvre qui a été effectivement façonnée d'abord à Paris et puis transportée caisse par caisse. Il a fallu 22 wagons pour transporter ce mausolée de Paris à Saint-Geniès-d'Olt. Et on peut le voir.
Et on peut toujours le voir, effectivement.
Bien sûr.
Louis Mercadier, quand même, ces deux conférences autour de la femme du féminisme, j'ai regardé aussi la liste de vos ouvrages, ils sont assez nombreux, hein. Et c'est vrai que la femme, ça revient souvent, hein, et le féminisme aussi, hein.
Eh bien oui, parce que quand même la femme mérite que l'on parle d'elle, surtout même dans ce siècle. Vous savez, il ne faut pas méconnaître les femmes, parce que vraiment elles ont fait un travail extraordinaire. On peut compter sur elles. Ce sont des êtres qui sont beaucoup plus solides qu'on ne le pense. Et je puis vous dire qu'on peut leur faire confiance, elles le méritent largement.
Mais quand même, pourquoi ce sujet vous passionne autant?
Pour expliquer un peu la chose, j'avais soutenu une thèse à l'université de Jussieu à Paris, et j'ai eu la chance d'avoir directeur de thèse Michel Perrault, qui est une très grande historienne, qui parle fréquemment d'ailleurs sur les thèmes de culture, notamment sur les femmes, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment en collaboration avec Georges Duby, un grand historien également. Ils ont écrit des livres sur les femmes, et c'est à elle à qui je parlais de l'histoire de Marie Talabot, mais telle qu'on la connaissait autrefois, c'est-à-dire une image très négative de la personne. Et c'est elle finalement qui m'a donné cette impulsion de façon à rechercher quelque chose concernant les femmes et surtout de réhabiliter déjà Marie Talabot. Et c'est vrai que maintenant, je suis un peu lancé dans ce thème-là, et c'est un thème qui est très passionnant, finalement, et qui mérite, justement, parce que les femmes le méritent.
Alors, Marie Talabot, c'est le titre de ce livre signé Louis Mercadier, consacré à cette Aveyronnaise. Les éditions, Louis, c'est rappelez-moi.
Alors, ce sont les éditions de Boré, qui sont à Clermont-Ferrand, à la montagne. Ce sont des éditions très sérieuses, et mes livres, on les trouve partout, évidemment, dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Alors, des livres nombreux, et le plus récent, il s'intitule « Pour ma sœur », et là encore, c'est une histoire de femme ou pas ?
Oui, absolument, oui, « Pour ma sœur », alors ça, c'est un livre qui est très poignant, pour la bonne raison qu'il s'agit des bébés volés en Espagne. Vous savez, ces bébés on a commencé à voler ces bébés au lendemain de la guerre d'Espagne, la guerre civile. Cette guerre a eu lieu entre 1936 et 1939. Et on a commencé à les voler pour les confier à des familles franquistes. Et l'histoire, là, c'est une béfi qui a été volée dans un couvent de l'Aubrac et qui a été mis d'un couvent à un orphelinat, de couvent à un orphelinat, comme ça jusqu'à Pampelune dans la Navarre. Et là-bas, on l'a confié à une communauté franquiste pour les élever dans cet esprit. Et c'est vrai que l'opposé à ce moment-là, et surtout à ce moment-là, mais il l'est encore d'ailleurs, a une importance capitale là-bas, notamment à Pampelune.
Vous voulez dire que ces enfants volés l'ont été en France, pas en Espagne auprès des républicains ou des contestataires? Ils ont été volés en France pour être ramenés en Espagne?
Alors, effectivement, on en a volé en définitive un peu partout, dès l'instant où on avait des liens avec. Dans ce couvent en question, la supérieure était une supérieure espagnole qui avait déjà des idées franquistes et des liens avec cette mouvance. Et de ce fait, quand elle pouvait, elle alimentait. Elle alimentait comme tout le monde un peu le faisait. Et c'est vrai que le but était de les confier dans des familles franquistes. Mais il faut savoir qu'on en a volé des milliers et des milliers d'enfants. Donc on les récupérait de partout. Il faut également savoir que on en a volé jusqu'en 1996, vous vous rendez compte, 1996, alors que Franco était mort en 1975, et donc on a continué à en voler parce que c'est devenu une affaire lucrative. Dès l'instant où il y avait des sous derrière, eh bien ça fonctionnait. Et effectivement, là, cette petite, on l'avait confiée donc dans ce couvent, et puis par la suite, on l'a revendue. Mais on l'a revendue à quelqu'un qui habitait Bordeaux, qui était, qui, vous savez, entre la Navarre et Bordeaux, c'est pas loin. Hein. On a volé dans le Pays Basque, on a volé un peu partout. Et c'est comme ça, finalement, que cette petite est revenue en France. Mais chaque fois, on changeait les noms, les prénoms, brouillait toutes les pistes. C'est excessivement difficile pour remonter les pistes. Et mon livre s'appelle « Pour ma sœur », parce que tout simplement, cette petite avait une sœur qui est restée ici dans l'Aveyron et qui vont se retrouver. C'est pour ça que ça s'appelle « Pour ma sœur ».
D'accord, c'est une histoire vraie ?
Ben, c'est une histoire, c'est à partir d'histoires vraies. Je suis obligé, vu que c'est très, très récent, de brouiller mes pistes, si vous voulez.
Bien sûr. Alors, 1996, donc ça s'est arrêté, ce trafic d'enfants, a priori. Moi, j'en ai quasiment jamais entendu parler en France de ces affaires-là. En Espagne, il y a eu un scandale ou non plus?
Eh ben oui. Alors, en Espagne, il y a eu quand même un livre et un film qui a été consacré à ce thème-là. En France, il y a eu surtout des émissions, des articles comme ça qui ont surgi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mince en connaissance. Et figurez-vous que le premier procès et le dernier pour l'instant, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul en Espagne, il date de fin juin 2018, c'est-à-dire qu'il est tout récent. Et là, dans ce procès, on aurait reconnu, les juges auraient reconnu qu'il y aurait eu peut-être plus de 30 000 enfants volés, bébés volés. Mais en réalité, d'après ce que disent certaines associations, ce serait plutôt près de 300 000 enfants. Vous voyez, les choses sont complètement différentes. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer bientôt, qui va exploser. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour remonter la pente, quoi. Parce que tout est brouillé, quoi, voyez-vous, derrière.
Bien sûr.
Mais c'est quelque chose de très fort.
Alors, pour ma sœur, hein, c'est le titre de cet ouvrage, aux éditions, mêmes éditions?
C'est aux éditions de Boré. On les trouve partout, hein, ces éditions. On peut même télécharger mes ouvrages, parce que j'en ai plusieurs, évidemment.
Oui.
J'ai aussi l'enfant volé, les bébés volés. Donc au travers de ça, mais aussi l'enfant du Buron, et puis aussi l'enfant trouvé. L'enfant trouvé, là, on va au 19e siècle, c'était encore la période de Marie Talabot. C'est l'histoire d'une petite fille qu'on a trouvée un matin de Noël contre la porte d'une église. Et cette petite était très rousse, avec des yeux très verts. Elle était belle comme un cœur, mais d'emblée, on l'a considérée comme la fille de l'enfer, la porte du péché, la porte de Satan, finalement, la sorcière. Et cette fille-là a eu quand même un cursus exceptionnel, tout simplement parce que, d'abord, on l'a baptisée, on l'a appelée Noël, parce que c'était le jour de Noël, et comme dans le berceau où on l'avait trouvée, il y avait des châtaignes grillées, eh bien on l'appelait Castanier. Voilà aussi comment on fabriquait des noms de famille autrefois. Et cette petite, on l'a confiée à l'orphelinat, et elle a eu un cursus, elle a toujours été à la recherche de son identité. Elle la découvrira grâce à des gitans. Elle n'était pas du tout gitane, mais grâce à des gitans, elle va apprendre à faire naître les enfants, mais également à leur façon, bien sûr, mais également à soigner avec les plantes. Elle se retrouvera à Paris sous la Révolution de 1848, et là, elle va littéralement crever la faim. Mais elle va être remarquée, parce qu'elle a cette très longue chevelure rousse, par un peintre qui s'appelle Théodore Chassériau. Théodore Chassériau a été un grand peintre, d'ailleurs, du 19e siècle, mais qui est mort assez jeune. Et auprès de lui, elle posait nue, parce que lui ne peignait que des Vénus. Et c'est là où elle va rencontrer aussi l'amour saphique. C'est une fille très, très lumineuse aussi, qui n'aura jamais d'enfant, qui ne voudra jamais se marier, qui ne sera pas pauvre, qui ne sera pas riche, je veux dire, elle va pas cultiver sa pauvreté, mais elle saura toujours donner. Mais c'était une fille vraiment lumineuse, lumineuse par tout ce soleil qu'elle avait dans son cœur.
Louis Mercadier, merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve pour deux conférences cette semaine, ce mardi à Aguesac, sur la naissance du féminisme au 19e siècle, la seconde vendredi à Nus Valadi, autour du rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ces deux conférences, l'entrée est libre. Hein.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Louis Mercadier.